Bienvenue à l'écoute d'Alter Echo avec, une fois n'est pas coutume, l'équipe au grand complet, Olivier, Nico et Nicolas. Vous écoutez Alter Echo en direct puisqu'on est mercredi soir à 22h sur Radio Campus ou alors vous l'écoutez peut-être en différé, vendredi à 14h toujours sur Radio Campus ou peut-être même mardi vers 10h sur Radio Panique 105.4, le tout à Bruxelles. Et les sujets d'aujourd'hui, alors on a eu beaucoup d'envoyés spéciaux dans les dernières semaines, il y a eu la grande manifestation historique de Rome qui a rassemblé entre 2 et 3 millions de personnes, Nicolas y était, un peu plus tôt, il y a une dizaine de jours, c'était Barcelone, des centaines de milliers de personnes dans la rue aussi, Nico y était, il nous a ramené des sons. Et enfin, chose promise, chose due, cette semaine j'ai lu le livre de Thierry Messant et j'ai fait une revue de presse sur la fameuse hypothèse « Y a-t-il un avion dans le Pentagone ?» On en reparle tout à l'heure, mais nous allons d'abord commencer par la manifestation de Rome.
Et oui, j'ai eu la chance de voir ça le samedi 23 mars dernier. Les trois grandes confédérations syndicales italiennes, la CGIL, la gauche, la CSL, les catholiques, et l'UIL, les centristes, ont organisé la manifestation la plus importante contre le gouvernement de Silvio Berlusconi. On disait que la gauche italienne était morte et démembrée. En effet, 3 millions de manifestants venant de toute l'Italie ont démontré le contraire. Jamais la botte n'a connu un tel rassemblement. Auparavant, on se souvient que la plus grande manifestation avait mobilisé plus d'un million d'Italiens en 1994 contre la réforme des pensions du précédent gouvernement Berlusconi. On se souvient aussi que ce rassemblement avait provoqué la chute du précédent gouvernement Berlusconi. Dans le cas de cette manifestation géante de samedi dernier, les syndicats se sont opposés à la base à l'article 18 du Code du travail. Ils se sont aussi opposés au terrorisme et ils ont encore redemandé plus de démocratie qui n'existe plus beaucoup en Italie. Pour revenir à cet article 18, eh bien, il a été adopté en 1970. Cet article permet d'éviter des licenciements abusifs. C'est une loi unique en Europe car elle oblige les entreprises qui virent leur personnel de manière injuste à les réintégrer en payant de lourdes indemnités. Berlusconi donc avait jugé ce projet de loi et cette idée de loi tout à fait inutile. Il avait voulu donc l'abroger, cette loi, jugeant que cette loi était trop sociale, naturellement en voulant favoriser ces entreprises. Mais là, le magnat de la presse est allé beaucoup trop loin. Sa position a cristallisé l'opposition italienne qui est enfin sortie de sa torpeur. Peu d'Européens à l'époque, on se souvient, avaient mal compris la victoire de Berlusconi sur la gauche. Il faut rappeler tout de même que seulement 1% séparait les deux coalitions, l'Olivier à gauche et la Maison des Libertés à droite. Drôle d'idée d'appeler une coalition fascisante Maison des Libertés. Ça ressemble aussi un petit peu à l'élection de Bush qui n'avait gagné que de près de quelques voix par rapport à Gore. C'est aussi dans une amorphie générale que s'est constitué en Italie un gouvernement assemblant la droite néolibérale avec la Ligue du Nord, parti nationaliste et xénophobe, sorte de Vlaams Blok Spaghetti, et l'Alliance nationale, parti néofasciste. C'est aussi dans l'indifférence générale que les carabinieri ont assassiné Carlo Giuliani à Gênes lors du sommet du G8 en juillet dernier. Personne ne s'est élevé contre les propos de Berlusconi également, qui confirmait avoir donné des directives sécuritaires pour ce sommet. Personne, ni en Italie, ni dans l'Europe bien-pensante, n'a réagi quand Berlusconi s'est élevé donc contre la civilisation musulmane en parlant de la supériorité des Occidentaux. La première voix qui a finalement été dissonante en Italie s'est passée le 2 février dernier. C'est un cinéaste, un intellectuel, Nanni Moretti. Il avait convoqué de nombreux Italiens et de Romains sur la Piazza Navona, mais là encore, certains trouvaient qu'il outrepassait son rôle d'artiste.
Pour les auditeurs qui n'identifient pas Moretti, je pense que son film a reçu une palme d'or. Son film a reçu une palme d'or, c'était
La Stanza del Figlio,
si, la
la
chambre du
chambre
fils.
du fils, voilà.
Il avait avant fait Caro Diario, journal intime, et Aprile, qui
Aprile.
parlait justement de situation politique et qui vituperait déjà Berlusconi à
Il faut
l'époque.
dire que Nanni Moretti est un ennemi de longue date de Berlusconi, parce que bon, dès que Berlusconi est au pouvoir, Berlusconi contrôlant la culture et la diffusion de la majorité des films dans les cinémas, dans ses chaînes de télé, n'a plus voulu donner un seul penny, ou plutôt une seule lire à notre ami Moretti. Donc c'est finalement. Mais on remercie Moretti parce qu'en fait, c'est un peu grâce à lui qu'a été relancée toute cette intelligentsia de gauche à la base qui s'est opposée. Et là, quand on voit dans le cas de samedi, on se rend compte que ça s'est dispersé même parmi la société civile italienne et même plus loin que ça. C'est-à-dire que il y a eu des tas d'Italiens qui sont finalement des gens de la classe moyenne, des étudiants, des ouvriers qui se sont mobilisés samedi pour cette manifestation.
Mais quand tu parles de l'omniprésence et du pouvoir de Berlusconi sur ce qui est médiatisé, ce qui apparaît dans le paysage médiatique italien, ça me fait penser à l'anecdote, à ce mail que tu as reçu d'un copain italien dont tu me parlais il y a 2 secondes. Je trouve que c'est un exemple assez frappant. Tu pourrais le résumer, tu
Ben,
penses?
c'est en fait un mail qui circulait sur toutes les boîtes italiennes en disant, ben voilà, moi je suis né dans Milan 2. Milan 2, c'est le quartier qui a été construit par Berlusconi. Et le matin, ben, je vais aller acheter mon journal, le journal de mon premier
De
ministre, La
Berlusconi.
Repubblica, de Berlusconi. Et puis bon, on va faire des courses au supermarché, ou ça, à la Standa, qui est le supermarché de mon premier ministre, Berlusconi. Et puis ben, j'ai quand même envie de me distraire en rentrant chez moi, en mangeant ma bouffe de la Standa et lisant La Repubblica. Ben, qu'est-ce que je vais écouter? Radio Uno, qui est finalement la radio de Berlusconi.
Il y en a qui préfèrent regarder la télé, celle de.
Ben, de Berlusconi. Maintenant, on a même le choix finalement entre la télé de Berlusconi privée et la RAI. Et là, c'est finalement très intelligent. Je fais juste une petite parenthèse parce
Et
que.
après, quand c'est samedi soir, on fait l'amour avec des préservatifs Berlusconi, ou bien c'est pas encore le cas?
C'est pas encore le cas, mais il y a sûrement les pubs Berlusconi. Non, mais c'est finalement assez hallucinant parce que c'en est au point que dans certaines opinions publiques italiennes, l'idée est reçue que la RAI est à gauche. Même si Berlusconi a placé tous ses poulains maintenant au sein de la RAI, les gens croient qu'en regardant la RAI, ils auront une information qui est finalement différente parce que la RAI a toujours été une chaîne de gauche, alors que ce n'est plus du tout le cas.
Mais apparemment, il y a des gradations aussi entre Rai Uno, Rai Due,
Ouais.
Rai Tre. Rai Tre étant considéré comme communiste carrément, et
Oui.
puis une chrétienne démocrate et une socialiste, je
Oui,
pense.
mais ça, c'est
C'est
nettement
en
moins le
Italie,
cas.
ça c'est.
C'est-à-dire que Rai Tre, maintenant, est communiste au regard de quelqu'un qui se placerait pour Berlusconni. Donc, je voudrais dire, est plutôt une chaîne centriste un peu dirigeant
Un
vers la
peu à
gauche.
gauche.
Et puis, il faut quand même dire que sur justement, on parle le média. Moi, je fais juste une parenthèse. L'émission qui marche le mieux sur le service public, c'est sur Rai Due, c'est Amore Amore. Et c'est une émission où, en fait, ça dépasse tout ce qui s'est fait dans Star Academy. C'est juste un couple qui va parler de ses problèmes sur antenne. Et on montre, en fait, que chaque membre du couple va passer une soirée, l'un avec donc une femme et l'autre avec un homme, et voir jusqu'où ils vont aller. Et après ça, ils vont discuter à 2 h de
Ah
l'après-midi
bah
pour
c'est
savoir.
mignon.
C'est
C'est pas
mignon, hein?
communiste en tout cas, ça c'est
Non,
sûr.
non, mais c'est très. Oui, mais donc pour en revenir à cette manifestation, et justement en parler des médias, cette manifestation a failli ne même pas se passer parce qu'au moment où les organisateurs faisaient le maximum d'informations sur cette manifestation, donc la semaine d'avant, on a appris la mort de Marco Biagi. Marco Biagi, qui est justement l'un des instigateurs de la contre-réforme contre l'article 18, c'est un professeur d'économie, un grand ami de Berlusconi, et il aurait été assassiné par les brigades rouges qui n'existaient plus depuis 20 ans. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que d'un côté, les anciens des brigades rouges ne sont pas du tout au courant de cette action, et ils risqueraient même, certains pourrait même penser que c'est un complot d'État, c'est-à-dire qu'on a déjà souvent vu les gouvernements italiens faire passer des actions par des groupes d'extrême gauche qui n'étaient pas du tout faits par
Ah
des
oui,
groupes d'extrême
il y a
gauche.
même eu des choses énormes. Il y a eu un attentat énorme dans une gare
La guerre de
italienne,
Bologne, oui,
la guerre de Bologne,
85 morts
voilà,
début des années
qui a
80.
permis une vague de répression des mouvements de gauche en Italie de l'époque et qu'on a finalement compris cet attentat avait été mis en place par l'extrême droite
Oui, tout à
italienne.
fait, Nicolas. Je ne sais pas si tu as lu ça dans la presse, mais effectivement, donc on a un peu rappelé les années de plomb, et tout le monde craint que ce soit le retour des années de plomb. Mais moi, il m'a semblé, mais je n'ai pas fait une lecture exhaustive de la presse à ce sujet-là, en tout cas. On rappelle les années de plomb en disant c'était l'époque du terrorisme d'extrême gauche et d'extrême droite, etc. Mais on rappelle très peu souvent la stratégie de la tension qui consistait en fait à manipuler des groupes d'extrême gauche, de les infiltrer
par des groupes d'extrême droite pour faire une violence insupportable qui appelle une certaine répression et évidemment ratisser dans le tas. Et comme tu dis, l'attentat de la gare de Bologne était dans ces attentats-là. Et on s'est rendu compte, enfin les enquêtes parlementaires qui ont été faites longtemps après ont révélé que un des grands groupes qui manipulait tout ça était la loge P2, la fameuse loge maçonnique P2, avec Licio Gelli, un banquier obscur lié au Vatican qui s'était pendu sous un pont à Londres. Enfin, des histoires vraiment dignes de films d'espionnage. Et ce que j'ai appris dans The Morgan il y a un peu plus d'une semaine, et que je n'ai pas lu dans le reste de la presse, mais je n'ai pas scruté, c'est que bon, la loge P2 était une loge maçonnique, d'accord, enfin, il n'y a pas de honte à être franc-maçon, mais c'était une loge quand même vachement gratinée qui trempait dans plein de trucs. Et qui était membre de la loge P2? Ben, Berlusconi.
Berlusconi. Tout à fait. Et justement, il y a, tu parles de la presse dans Le Monde du samedi 23, un écrivain, Bernard Comment, qui parle de l'Italie, de tous les dangers. Il rappelle un petit peu le parcours de Berlusconi. Il faut quand même dire que Berlusconi est arrivé au pouvoir alors que c'est tout de même quelqu'un qui est accusé de tas d'affaires et jamais en Europe ça a été le cas. Je pense par exemple à Nanni Moretti qui, dans un article qui a été en fait publié dans Le Monde et également en italien par le journal, par le quotidien L'Unità, quotidien de gauche, qui est en fait un recueil de tous les grands intellectuels anti-Berlusconi. Ben Moretti dit tout simplement, le président du Conseil Berlusconi a été poursuivi, il l'est en ce moment, même sur de très graves chefs d'accusation. À l'étranger, il suffirait d'un centième des points d'interrogation qui pèsent sur sa carrière de chef d'entreprise pour le contraindre à cesser de faire de la politique. Donc c'est vrai que la situation italienne est assez particulière.
C'est exactement aussi, c'était la teneur d'un éditorial du Economist, le magazine anglais, pourtant qu'on ne peut pas soupçonner de gauchisme excessif, qui au moment où Berlusconi est arrivé au pouvoir, l'a complètement descendu en flamme, mais simplement en énumérant tout ce dont il était soupçonné et ce à quoi il essayait de se soustraire.
Et donc pour l'article de Bernard Comen, justement, il revient en fait sur tout ce qui est loge P2, tout ce qui est finalement. On oublie tout de même que Berlusconi a démissionné en 94, entre autres à cause de cette loi contre les pensions, mais aussi à cause de problèmes, c'est qu'il était déjà dépassé par tous les problèmes juridiques. Et donc finalement, c'est ce qui est très étonnant en Italie et en Europe, c'est que ce Berlusconi est arrivé au pouvoir dans une espèce d'indifférence générale. De la
Ah
part
oui, Louis Michel, il n'a jamais dit qu'il irait plus skier
voilà.
en Italie, quoi,
C'est-à-dire
contrairement à Haider.
que oui, on a fait un boucan monstre contre Haider. Et quand un Berlusconi est revenu au pouvoir avec quand même une coalition qui est même plus douteuse qu'une coalition autrichienne, parce
Ah
que,
oui, évidemment.
comme je le disais, Alliance nationale, Ligue du Nord, et puis lui, son parti qui
Et
était
donc
espèce
rappelons que l'Alliance nationale est l'héritière directe de
de
Mussolini, quand même,
Mussolini,
qui
ouais.
s'en revendique.
Il
Oui,
s'en
tout à fait.
revendique. Et
Avec
l'Allemagne.
un Fini qui était très présent à Gênes et
Oui.
qui est un allié direct de Berlusconi et qui est très bien
Ah,
placé dans le
c'est un
gouvernement
très bon
italien
ami.
et qui défend des thèses carrément mussoliniennes. En effet, non, c'est vrai, on peut revenir là-dessus. Louis Michel qui surgit dans l'opinion publique comme un humaniste et un défenseur
Bah oui,
invétéré des
il n'a
droits de
pas ouvert la
l'homme.
bouche
Il n'a
pour
pas ouvert la
l'Italien.
bouche là, franchement, il continue apparemment à manger de
Ah
la
oui, il collabore
mozzarella
même
et
carrément, quoi.
collabore même. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures, déjà de la part des partenaires européens et puis de la part de la gauche italienne. Alors on disait le gros problème de la gauche à l'époque de ces élections, donc c'est qu'elle était divisée, c'est qu'aussi Refondation communiste ne voulait pas former de coalition finalement avec l'Olivier qui est formé de parti de gauche, parti chrétien de gauche et aussi de parti vert. On parlait aussi du manque de charisme de Rutelli qui était le candidat. Bon, et puis on oublie de dire que voilà, il y avait qu'un pour cent de différence comme ça s'est passé avec Bush aux États-Unis, c'est que c'est finalement toujours des votes qui sont très
Non, non,
douteux.
non, non, avec Bush, c'était Bush qui avait perdu en fait, mais
Ouais,
bon, on va pas
voilà.
revenir là-dessus.
Ça, c'est vrai que c'est encore un autre, enfin bon,
Cas de figure.
un autre cas de figure, on va pas s'enfoncer là-dedans. Mais finalement, donc voilà, il est arrivé au pouvoir. Maintenant, heureusement, on se rend compte que l'opinion publique se réveille. Et je pense que cet article 18 a été un électrochoc. Et justement, donc la manipulation qui a été faite par les médias par rapport à la mort donc de Biagi a vraiment fait réagir la population en se disant, mais attendez, c'est parce que Berlusconi voulait presque dire et accuser les syndicats qui organisaient cette manif
De presque appuyer, de presque
d'affaiblir
appuyer
terrorisme.
un assassinat,
Et
quoi.
donc là, on a eu la ménagère de 50 ans italienne, romaine, qui a dit, attendez, moi je suis de gauche, je suis contre ce gouvernement, mais c'est pas pour ça que je suis une terroriste.
Et donc la manifestation était aussi bien contre les plans de réforme du gouvernement que
Contre le
contre le
terrorisme.
terrorisme.
Et naturellement, pensant indirectement au terrorisme d'État et pour la démocratie, parce que bon, finalement, on a tout un débat. Moi, je conseille d'aller, par exemple, je conseille donc pour une plus grande réflexion d'aller voir ces articles qui ont été publiés par Le Monde de tous ces intellectuels italiens. On ne sait pas très bien qualifier Berlusconi de véritable fasciste. On dirait un fascisme multiforme à la sauce spaghetti néolibérale, mais c'est surtout ce qui est certain et ce que tout le monde admet, c'est qu'il y a une diminution de la démocratie totale, ne fût-ce que dans la manipulation qui en est faite dans les médias. La manière dont, par exemple, dont on a parlé de la manifestation par après, a été nettement mieux traitée dans les journaux français, belges, surtout français ou espagnols. Et en Italie, on a montré naturellement les photos de groupe, etc. Mais il y a des journaux qui, comme le 24 heures du jour, qui est toujours le traduit en français pour que ça soit plus clair, qui est en fait le journal patronal, n'a pas montré une seule photo de la manifestation et a juste parlé du fait que ben, ça avait fait des dégâts, des crasses, que ça avait posé un problème pour la
Alors que
moitié des
c'était
gens.
quand même vaguement historique, quoi.
Voilà. Et donc, il faut quand même rappeler qu'il y avait 3 millions de gens, tellement de monde que les gens ne pouvaient plus avancer ni reculer. Donc, on trouvait des gens partout dans Rome, dans les parcs, les églises, au Vatican, la place Saint-Pierre était complètement rouge de monde.
J'ai entendu dire que le pape s'était mêlé à la foule. Est-ce que c'est possible,
Il
ça?
était couché au sol.
Allons.
Bon, on va revenir ça, mais
Mais
donc.
justement, à propos de la manif, puisque tu y étais, donne-nous un peu en une minute, fais-nous goûter l'ambiance, quoi.
Bah, moi, je suis déjà arrivé et je m'attendais à ce qu'il y ait, comme d'habitude, 500 000 personnes. Et
Comme d'habitude. Pas d'habitude belge.
en essayant de m'approcher du Circo Massimo, qui était donc l'endroit où étaient réunis tous les orateurs, moi, j'ai vu au fur et à mesure des écrans géants. Je me dis, mais j'y suis, j'y arrive. En fait, j'étais très loin parce qu'il n'y avait plus moyen d'avancer. En voulant, j'ai vu que là, j'ai jamais vu Rome était rouge de monde parce que chacun avait sa casquette rouge et son drapeau rouge. Donc, on retrouvait les trois syndicats, on retrouvait des groupes italiens comme No Global, on retrouvait des punks aussi, on retrouvait vraiment tout. On retrouvait même finalement des gens en famille avec leurs chiens, leurs enfants et avec leurs courses qui allaient un petit peu, qui allaient supporter. Donc, j'ai voulu prendre le métro et il y avait un service d'organisation quand même de 150 000 personnes. Des syndicats ont organisé donc la manifestation. Donc, ils calculaient le nombre de personnes qui pouvaient prendre le métro pour aller à l'arrêt suivant, qui permettait d'aller mieux voir les discours. La police était très distante. Ce qui était pas mal, c'est qu'il n'y a pas eu du tout le syndrome gêne. Et je crois qu'ils ne s'attendaient pas à un tel nombre de manifestants. Et la police était très très à la périphérie. Et on sentait que malgré tout, chez certains policiers, il y avait quand même une certaine sympathie par rapport à ce qui se passait. Et puis, ben, moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment un moment où j'ai entendu, voilà, il y a 1 million de personnes, 2 millions de personnes, et puis ben, finalement, Cofferati, qui est le président du syndicat, nous sommes 3 millions. Et là, il y a eu un tollé général, et tout le monde a applaudi. Et là, on a vraiment, moi, j'ai eu l'impression, et je pense que tous les gens qui étaient là ont eu l'impression de vivre un moment historique.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound.
fried horses. After 400 years, I got no choices. The police don't have a little gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day, just so they can run the light and be up on their way.
Et voilà, désolé, on interrompt la musique, mais il y a encore tellement de choses à dire et nous passons de Rome à Barcelone d'un coup de baguette magique. Nicolas, Nico,
voilà, alors pour un bref rappel, Rome a peut-être essuyé Barcelone dans vos mémoires, mais donc du 15 au 17 mars se tenait à Barcelone un sommet européen.
On en a parlé la semaine dernière, petit rappel.
Qui devait aborder un tas de sujets, notamment on revenait sur les accords de Lisbonne, qui socialisaient un petit peu la construction européenne.
Et qui avait pour but aussi d'être l'économie de la connaissance la plus compétitive pour l'an 2010, avec des aspects sociaux et environnementaux.
Exactement.
Petit programme facile à réaliser.
J'adore toujours leur moyen de résumer comme ça des idées globales pleines d'optimisme. Et quand
oui, et puis
gratte,
de les abandonner aussi vite. C'est voilà. Vraiment un coup d'annonce, que tout ça paraisse dans les gros titres et n'en parlons plus. Donc ce sommet européen qui avait de grandes ambitions à Barcelone a finalement accouché d'une souris, c'est une expression un peu épuisée, mais ça tient le coup sur ce sommet-là, puisqu'on est, le sommet s'est achevé uniquement avec une tentative d'élargissement de la libéralisation du marché de l'économie, ce qui nous promet des complications dans l'avenir, vu les expériences qui ont déjà été tentées ailleurs. Face à ce sommet européen, il y a eu évidemment une mobilisation, comme ce qu'on a pu connaître à Bruxelles à l'occasion du sommet européen à la mi-décembre. Moi, j'étais à Barcelone et vous avez probablement entendu parler à la télévision de la manif du 16 mars qui rassemblait des centaines de milliers de personnes.
300 000, on a dit.
La police parle de 300 000 personnes, voilà. Les organisateurs de 600 000, 10 ans et demi millions, 400 000, on va dire. Enfin, c'était tout de même une grosse manif à Barcelone. Et moi, j'étais là un petit peu plus tôt et j'ai recueilli des sons. En fait, j'aurais bien voulu interviewer des organisateurs de manifs, des gens qui auraient pu nous sortir des analyses brillantes sur ce qui se faisait au sommet européen, parce que c'est tout à fait nécessaire. Mais ne parlant pas espagnol et encore moins catalan, je n'ai pu qu'interviewer les francophones que j'ai croisés. Ce qui fait que le son que j'ai ramené, finalement, ça s'apparente à des impressions de qui sont ces Belges qui étaient à Barcelone contester le sommet européen. Donc j'ai sélectionné là, trois passages d'interview qui nous font part un petit peu des impressions, des espoirs et des déceptions de ces Belges à Barcelone. Voilà. Ah oui, c'est sur les actions du jeudi et du vendredi, donc pas sur cette énorme manif du samedi. Avant cette grande manif, il y a eu des plus petites actions qui étaient plus décevantes, où on a souvent vu plus de policiers.
Il faut quand même dire aussi qu'on a empêché la majorité des gens venant de l'étranger de se présenter aussi dans ces manifestations, quoi.
Oui, ça c'est le point sur lequel j'avais un peu insisté la semaine passée, mais en effet, ce que je retiens, moi, bon, on voit de nouveau énormément de gens dans les rues, un sommet qui confirme l'option vraiment libérale de l'Europe, de la construction européenne à l'heure actuelle. Et il y a un énorme fossé, des gens critiquent l'Europe, d'autres la libéralisent, et il n'y a pas vraiment de connexion. Donc moi, c'est une des choses qui m'a frappé à Barcelone, c'est la contestation grandit, le discours ne change pas, ça fait un petit peu peur. Et par ailleurs, ce blocage des militants aux frontières, qui est de plus en plus fréquent, où on voit vraiment des bus, des centaines de Français et de Belges condamnés de délits d'opinion. Donc c'est des gens auxquels on n'a rien à reprocher, mais qui, comme ils défendent, comme ils contestent le sommet européen et qui vont à Barcelone pour ça, sont bloqués aux frontières. Et là, on ne retrouve plus, étonnamment, en première page des journaux télévisés, un Verhofstadt qui prône son envie de dialoguer avec les antimondialistes. Tout à coup, il oublie que ces gens sont en train de se faire tabasser aux frontières pour délit d'opinion.
Il faut quand même rappeler que, juste une petite remarque, Aznar a réutilisé les systèmes de contrôle à la frontière franco-espagnole qu'utilisait Franco. Donc c'est tout de même très révélateur.
Voilà un homme qui a un souci d'efficacité. Enfin voilà, maintenant on va vous faire écouter quelques passages d'interview de ces Belges, de ces courageux Belges qui allaient démolir l'Europe à Barcelone le 15 mars.
Ils avaient prôné une autre Europe, disons.
Excuse-moi.
On les écoute.
Alors là, on est donc jeudi le 14, on est toujours à Barcelone. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas si tu as l'heure sur toi.
Il est 5 h, les magasins vont ouvrir.
5 heures. Et on est dans ce que j'ai cru comprendre, c'est un centre ouvert, c'est ça, non?
Ici. Si. C'est un centre social, en fait, où, qui accueille apparemment Indymedia. Et c'est un des lieux, un des nombreux centres sociaux qui restent encore à Barcelone. Ceci avec un accord d'occupation, je pense. Et je suis ici depuis une dizaine de jours, donc j'ai pu un peu voir ce qui se passait. Ce qui m'intéressait aussi, c'est les actions qui se passaient avant, parce que ça fait quand même une semaine d'action ici. Ça a commencé avec la manifestation des étudiants, le 7, qui a un peu mal fini, puisque la police est rentrée dedans.
Pourquoi en fait? Comment ça s'est passé?
Ben, en fait, c'est quand même une grosse manifestation. Il y a eu une grosse manifestation à Barcelone, une à Tarragona et une à Valence. Les trois ont été assez violentes dans la fin, puisqu'il y a eu la police qui a chargé, il y a eu des arrestations. À Barcelone, en fait, il y avait énormément d'étudiants du niveau secondaire en Belgique qui manifestent par rapport à la réforme de l'enseignement qui est passée de toute façon. Elle est passée cette semaine-ci, où par exemple l'obligation scolaire descend à 15 ans. Donc à 15 ans, un jeune peut ne plus aller à l'école et à 14 ans il peut déjà s'orienter vers des travaux manuels. Mais sont venus aussi les universitaires qui eux vont depuis quelques mois lutter contre le projet de la LOU, de la réforme de l'université qui est issue des accords de Bologne. Et depuis quelques mois les actions sont très radicales dans les universités et ici ils sont arrivés près du bâtiment du gouvernement de Catalogne et puis ils ont un peu bombardé le bâtiment et donc là Los Mossos d'Esquadra qui est un des corps de police nombreux qui existent à Barcelone, puisqu'il y en a 4 ou 5 différents qui sont présents pour l'instant, sont rentrés dedans assez violemment. Il n'y a pas eu d'arrestation à Barcelone, mais à Valence, il y a eu 6 ou 7 arrestations.
Et il y avait combien de participants à cette manifestation à Barcelone?
Je pense, ma mémoire est bonne, qu'il y avait 10 000 étudiants du secondaire qui étaient dans la rue et je ne sais pas combien d'universitaires ont rejoint. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés dans la presse, en fait, hein, à ce moment-là.
Est-ce qu'on a une idée quelconque du nombre de participants aux différentes actions demain, vendredi 15?
Non, c'est vraiment l'inconnu. L'inconnu la plus totale.
Et donc, toi, tu loges ici dans un squat. Est-ce qu'il y a beaucoup de squats à Barcelone?
Ah, il y a énormément de squats à Barcelone.
Et c'est très diversifié ou c'est une espèce de grande communauté?
C'est très diversifié. Il y a des squats qui sont ouverts depuis très peu de temps, il y a des squats qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, il y a des squats, il faut savoir, à Barcelone, qui maintenant subissent depuis le mois d'août une répression très très grande, avec des arrestations des gens qui sont toujours en prison, qu'on considère comme proches des mouvements terroristes de l'ETA, des indépendantistes catalans, qui sont pas des nationalistes, comme nous on peut l'entendre par exemple en Belgique, mais qui se disent indépendantistes, sont fort réprimés, mais les nombres de squats sont très importants, et alors souvent ils sont organisés par quartier. Et moi je suis dans un des quartiers où c'est la même mobile, hein, c'est les gens qui tournent dans le même genre d'action, qui sont plutôt proches, enfin ils se disent pas anarchistes quoi, mais ils sont plutôt de cette mouvance-là. Et avec beaucoup d'Italiens, par exemple, beaucoup de Turinois dans notre quartier.
Est-ce qu'ils sont mobilisés pour les actions contre le sommet européen ou alors ils préfèrent des choses beaucoup plus locales?
Non, ils sont. Pour l'instant, c'est clair que toute la lutte, elle est axée par rapport. Elle est axée sur le sommet qui a lieu ici.
Et toi, tu vas participer à des actions demain?
Ouais.
T'en as déjà choisi une, puisqu'il y en a quand même plus d'une dizaine.
Mais je ne sais pas très bien comment ça va se passer demain, parce que, par exemple, il y a des rassemblements qui sont appelés sur certaines places de Barcelone, mais il n'y a pas de parcours qui est décidé, donc on ne sait même pas vers où ça va aller. Il y a plein de choses et à des heures différentes, donc j'imagine qu'on va se retrouver dans plein de trucs. Mais je pense qu'une de celles qui va commencer le plus tôt, c'est celle de Mars Attack, et je pense que je vais y être. On verra bien ce que ça va donner.
Et quel est le principe? Donc pour toutes les actions, on a simplement donné un lieu de rendez-vous, souvent une station de métro et une heure, et après, j'imagine, les parcours sont indéfinis.
Ouais,
bon. L'objectif de Mars Attack, ce serait quoi? Ce serait par exemple une occupation ou alors démonter un McDo ou je sais pas moi, ou des choses beaucoup plus abstraites, plus symboliques.
C'est difficile de répondre à ce genre de questions-là. En tout cas, il y a des actions qui vont être menées. Ce qui a été très clairement dit, par exemple, pour le mouvement Mars Attaque, le slogan est clair, c'est le capitalisme ne se réforme pas, il se détruit, et les riches pleurent aussi. Ben, ça donne déjà une image de ce qui pourrait naître de cet appel à manifestation-là.
Voilà. Et tu peux te présenter, parce qu'on ne sait pas du tout qui t'es, si tu as envie, quoi. Putain, deux mots, c'est pratique à situer au début du reportage. Bonjour, je m'appelle, tu vois, non c'est...
Ben, je sais pas.
Pas de présentation, un anonyme belge sur une terrasse d'un centre ouvert.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de parano ici à Barcelone pour l'instant, on en discutait tout à l'heure. Les maisons de coupa, c'est certaines maisons de coupa sont entourées de civils.
Les maisons de coupa, les squats.
Les squats. Et quand tu sors des squats, tu es contrôlé systématiquement, des fois deux, trois fois par jour. Donc il y a une parano qui naît qui fait qu'il y a très peu d'infos qui passent sur les personnes. Et c'est embêtant aussi parce que les gens d'ici s'en rendent compte, c'est qu'ils commencent à être très méfiants par rapport aux personnes qui arrivent de l'étranger. Et en même temps, ils se disent, mais zut, peut-être que ces gens-là sont bien. Et donc c'est difficile de lier des contacts pour l'instant à Barcelone dans les maisons de coupe. Si tu n'as pas une personne de connaissance qui t'introduit, tu peux oublier. Et alors, par exemple, le centre de convergence, le problème, c'est le logement. C'est où on va loger ces personnes. Et maintenant, les personnes, si elles viennent dans des squats à Barcelone et qu'elles sonnent et qu'elles connaissent personne, elles peuvent oublier, elles ne seront jamais logées. Il faudra aller au camping qui est prévu.
Voilà. Merci beaucoup. À demain.
Ouais, à demain.
Voilà, donc là, on est toujours vendredi 15, la journée des actions décentralisées. On est juste en face de la mer, là, tout près de la statue de Christophe Colomb.
Ouais,
et il y a une heure ou deux, on était comme moi sur les Ramblas, mais on n'était pas au même endroit. Donc, de quoi tu te souviens? Je pense que tu as pris des coups dans les jambes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as vu?
Bon, en fait, on est arrivé vers une heure. On s'est mis au niveau de la place du métro. Là, on a commencé déjà à voir, il y avait quelques actions, quelques types avec des drapeaux. On est un peu resté, déjà on a attendu 2 heures, parce qu'apparemment les organisateurs ils étaient coincés. Donc du coup, il y a tout un groupe qui a voulu avancer, nous on les a suivis. Ils ont voulu bifurquer vers la gauche pour sortir de la manif et faire un autre chemin qui n'était pas prévu. Les flics, elles ont complètement entouré, ont commencé à taper dessus, vraiment, les gens étaient par terre. Et puis là-dessus, ça a commencé un peu à dégénérer, ils lançaient des bouteilles et tout ça. J'ai voulu aller sur le côté pour essayer un peu de me protéger quand même, et là c'est les flics qui me tapaient dessus quoi. Ils me tapaient dans les mollets, essayaient de me faire tomber. Bah j'ai commencé à cavaler, je suis parti dans une petite rue et je suis revenu un peu de l'autre côté. Là j'ai retrouvé Étienne et puis on a continué, mais tous les groupes étaient dispersés, c'était vraiment le bordel quoi.
Et quand on en parlait un petit peu avant, j'ai entendu que tu étais à moitié convaincu par l'organisation ici, tu peux me répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure?
Ouais d'office, en fait moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de comité organisateur, c'est chacun organise son petit truc. Mais c'est vraiment le bordel parce que chacun est en groupe et ils n'arrivent pas à se retrouver quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça. Comment je peux expliquer ça? Bah disons qu'il y a 8-9 groupes, ils font chacun leur trip. Il y en a un qui fonce dans le tas, qui avance, les autres restent là et ceux de derrière passent vers la gauche. Donc forcément tout le monde est séparé et là c'est le bordel, les flics ont le dessus quoi.
On t'aurait voulu voir des choses plus coordonnées quoi.
Plus coordonnées et savoir pourquoi on était là quoi. Parce qu'il y avait même pas de drapeau, on n'expliquait même pas qu'est-ce que c'est la manifestation. Moi j'imagine un touriste qui arrive ici, qui regarde ça, s'il n'a pas le programme en main, il sait même pas pourquoi les gens sont là et ils sont occupés à se faire frapper sur la gueule quoi.
Et maintenant, le bruit qu'on entend derrière nous, c'est une petite manifestation contre les OGM. Tu crois qu'il y a combien de personnes là autour de nous?
Bah, 100, une petite centaine, 200, 100, 200 personnes, je dirais. Apparemment, ici, c'est vachement plus coordonné. Il y a déjà des drapeaux, il y a un avant-poste. Il y a des discussions apparemment qui sont avec la presse là-bas. Donc, a priori, c'est déjà vachement plus coordonné que la première, quoi. Elle me paraît, à mes yeux, moins importante que la première pourtant, quoi.
Tu sais combien il y a de policiers en ville aujourd'hui?
Ouais, plus de 10 000, quoi. Ça fait peur quand même, quand tu vois comment ils sont.
Et ton sentiment général sur ce que tu as pu voir jusqu'ici et aujourd'hui, puisque finalement les manifestations ont commencé aujourd'hui?
Sentiment de désorganisation, une prise de pouvoir pas possible de la part des policiers. On dirait vraiment presque que c'est eux qui manifestent, c'est eux qui rentrent dans le tas et qui dispersent tout le monde et ils frappent à la va-vite quoi. Ça tombe dans le groupe, là il y avait des touristes, ils se sont fait frapper aussi quoi. Toi t'as pu voir une fille qui se faisait tabasser la gueule, c'est vraiment, moi je trouve ça c'est n'importe quoi, c'est de la violence gratuite alors que c'est censé être une manifestation pacifiste.
Alors Yann, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'avais l'air un petit peu pas convaincu par l'action à laquelle nous sommes en train de participer actuellement.
Bah, je suis un petit peu déçu quand même. Bon, déjà, il faut dire qu'on est vendredi. Nous, on est arrivé depuis mercredi. Là, maintenant, à 5h, c'est peut-être la première fois qu'il y a beaucoup de gens, et encore, qui sont...
Beaucoup de gens, il y a combien de personnes, d'après toi?
C'est difficile à estimer, mais je dirais quelques centaines, 500-600 peut-être, maximum. C'est la première fois que les gens sont vraiment réunis ensemble. Mais les accents sont très molles. Je veux dire, il n'y a pas d'enthousiasme, on chante pas, on crie pas, il n'y a pas de couleur. On a l'impression d'attendre longtemps, que tout se fait en petite dimension. Mais bon, c'est pas facile à organiser non plus. Par contre, le flic, impressionnant.
Impressionnant, sexy tu veux dire?
Ouais. Bon, je ne le trouve pas tellement sexy. C'est vrai qu'ils ont un petit look YMCA, mais... Non, ils sont surtout très nombreux, bien équipés. Ils nous encadrent, ils nous louent. Ils longent chaque mouvement, ils prolongent chaque mouvement de fou.
Alors la question, indispensable d'après moi, tu t'es bougé jusqu'ici, tu cours certains risques même pour ta personne physique à courir ce genre de manifestation. Quel est, tu crois, l'impact qu'on peut espérer de ce qui est en train de se passer ici?
C'est un impact... qui a plusieurs dimensions, quoi, à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, ben voilà, ça passe à la télévision, c'est peut-être l'occasion de passer certains messages. À moyen terme, ben, ça renforce, je pense, la cohésion du mouvement, le fait de savoir qu'il y a des gens un peu partout qui sont prêts à se mobiliser comme ça. Et puis à long terme, j'espère que les idées vont se propager dans la société. Voilà. Les idées, c'est vraiment des, pour ma part, de réforme du système économique, politique et...
Donc en deux mots, t'es sceptique, mais ce sera à faire, à refaire, tu le referais, quoi.
Je suis pas du tout sceptique, mais je me fais pas spécialement d'illusions par rapport à ça. En tout cas, moi, mes attentes, c'est pas que la société change après une grande manifestation. Absolument pas. C'est un élément parmi d'autres de l'action politique, voilà. C'est tout.
Voilà, c'est tout.
il semblait y avoir une certaine désorganisation, en tout cas avant la grande manifestation.
Oui, c'est ça, c'est ça qui est un petit peu mal vieilli. Je sais pas, peut-être les gens qui sont renseignés sur les mobilisations de Barcelone ont eu l'impression de quelque chose de grand. Bon, Rome, avec ses 2-3 millions de manifestants un peu repassés dessus, Barcelone, le samedi, c'était 1,5 million de manifestants, c'était énorme. Ce que vous venez d'entendre, c'était le vendredi, et c'est vrai que le vendredi, ouais, c'était triste, beaucoup de policiers, peu de manifestants, des choses très peu organisées. Et pour moi, comme pour la plupart des manifestants non catalans, c'était très dur de tomber sur des représentants, sur des organisateurs. Voilà.
Je crois que la stratégie d'Aznar a bien fonctionné, la stratégie d'essayer d'empêcher, premièrement, comme on dit, les manifestants étrangers d'y entrer, et une stratégie tout de même qui s'est tout de même préparé en Espagne plusieurs semaines à l'avance, d'essayer de démembrer le plus possible les collectifs qui organisaient la manifestation.
Évidemment, qu'est-ce que ça aurait été si ça n'avait pas marché? Il y aurait eu 12 millions de personnes. Il y a quand même eu... Je ne sais pas si sa stratégie a si bien marché que ça, parce qu'il y avait quand même une marée humaine.
À mon avis, s'il avait laissé rentrer tous les gens qui voulaient rentrer en Espagne, étant donné la situation péninsulaire de ce pays, parce qu'il n'y a qu'une frontière finalement, je pense qu'il y aurait eu vraiment beaucoup plus de monde.
Ben oui, et puis le demi-million de personnes sont venues dans une manifestation qui était tout à fait au tracé préétabli, etc. C'est une manifestation qui va peut-être afficher auprès de la presse, voilà, regardez, autant de personnes, et bon, ça, une grosse frange de l'opinion publique s'oppose à la construction européenne comme elle est là maintenant. Par contre, les actions décentralisées qui avaient lieu la veille avaient vraiment pour objectif de gêner l'organisation du sommet européen directement. Et c'est vrai que quand tu parles de la politique d'Aznar, c'est ce qui se passe beaucoup pour le moment, quand je parlais de délit d'opinion. En effet, on bloque les étrangers aux frontières, et au sein de la région où s'organise le sommet, il y a une répression sur le plus long terme, comme expliquait le premier intervenant là, des interviews qu'on vient d'entendre. Il dit que depuis le mois d'août, il y a des pressions qui sont faites sur les milieux alternatifs espagnols, où il y a des gens qui sont encore en taule à l'heure actuelle.
Et on pense par exemple même aux pressions qui ont été faites par rapport à Indy Media Espagne. Aznar a tout de même pensé à faire des lois qui, sous couvert de lois antiterroristes contre les sites internet de l'ETA, etc., ils profitent de ça pour attaquer des sites indépendants.
Mais oui, quand on parlait du délit d'opinion, il y a une certaine tendance au sein de la Commission européenne, enfin dans l'élaboration des lois européennes pour gérer ces sommets européens et leurs contestations, il y a une tendance qui dit, voilà, dans notre lutte antiterroriste, pour qu'elle soit cohérente, il faut lutter contre le terrorisme à la racine. C'est quelque chose que j'ai entendu expliciter comme ça par Viviane Reding, qui est une commissaire européenne qui est à la base de ces lois antiterroristes élargies. Elle dit, si on veut s'attaquer à la graine terroriste, il faut s'attaquer aux organisations qui sèment cette graine, et en l'occurrence, elle pense parfois aux organisations de gauche. Et donc, quand on parlait de délit d'opinion, c'est vraiment ça. À l'heure actuelle, vous vous affirmez, vous affichez, vous comportez contre, vous êtes susceptible d'être assimilé à des terroristes. Et ce que je dis, c'est pas le discours d'un grand parano. On voit, comme tu le dis, sur Indymedia, mais sur trois autres sites d'information alternative espagnole, qui ont été clairement attaqués par la sécurité espagnole. Pour les idées qu'elle diffusait, qu'elle défendait. Ouais.
À part ça, d'autres rendez-vous à venir dans le cadre de la présidence espagnole?
Et bien, la clôture de la présidence espagnole à Séville en juin. Vous pourrez trouver toutes les informations, si vous voulez vous y rendre, sur le site d'Indymedia Belgique, www.indymedia.be, Indymedia avec un Y comme deuxième I.
Et puis si vous voulez faire du mal, vous avez toutes les informations officielles sur le site de la présidence espagnole.
Voilà.
Y a-t-il un avion dans le Pentagone? Rappelez-vous, si vous avez écouté la semaine dernière cette auguste émission, on avait diffusé l'interview chez Thierry Ardisson de Thierry Messant, qui est l'animateur du réseau Voltaire, et qui a d'abord, par le biais d'un site et ensuite par le biais de son bouquin, qui est sorti la semaine dernière en Belgique et il y a une bonne dizaine de jours en France, il pose des questions qui peuvent paraître pertinentes à certains, notamment, c'est la base de son questionnement, y a-t-il un avion dans le Pentagone. Il estime que les dégâts sont beaucoup trop faibles pour pouvoir avoir été causés par un avion. Et dans la foulée, il avance encore d'autres éléments assez troublants. Pour lui, les pompiers affirment qu'il y a eu des explosifs dans les tours, donc qu'elles ne se sont pas effondrées du simple impact de l'avion et de l'incendie qui a suivi. Il affirme également qu'il y a eu des avertissements avant ces attentats venus de divers coins, on en parlera tout à l'heure. Il parle aussi d'un incendie à la Maison Blanche qui était passé en direct sur CNN et dont personne n'a plus parlé. Et puis, il va de plus en plus loin. C'est sûr qu'il échafaude pas mal de choses à partir de ça. Pour lui, Ben Laden serait un agent de la CIA et les attentats du 11 septembre seraient en fait un coup d'État intérieur qui aurait été perpétré par une faction dure du complexe militaro-industriel et qui aurait mis bouche devant le fait accompli d'exiger une politique plus militariste et plus favorable, notamment aussi au secteur pétrolier. Je vous avais promis que je lirai le livre et que je vous en ferai, que je vous ferai part de mes impressions. Promesse tenue, j'ai lu le livre et voici mes impressions. Alors tout d'abord sur les faits, il y a effectivement quelques éléments qui sont assez troublants, notamment l'histoire du Pentagone, qu'on voit d'ailleurs beaucoup mieux sur le site www.asile.org que dans le bouquin, parce qu'en fait Thierry Messant, par exemple, aussi dans l'interview diffusée la semaine passée, était allé très en détail. Dans le livre, parfois c'est plus elliptique, et donc cette histoire de Pentagone est en fait abordée uniquement dans le premier chapitre du livre, et y a donc encore énormément d'autres éléments, mais certains sont des exégèses un peu de discours officiels qui sont parfois un peu dénués d'intérêt, il faut bien le dire. Sinon, il y a Messant parle aussi dans son livre des nombreuses mises en garde, je vous le disais, notamment par les services secrets étrangers, les services allemands, égyptiens, français, russes et israéliens, qui apparemment avaient contacté la CIA pour dire que quelque chose se tramait et on les avait pas écoutés. Il y avait aussi la mise en garde, et ça c'est assez troublant quand même, la mise en garde d'un lieutenant américain qui avait été arrêté au Canada avant les attentats pour une histoire de carte de crédit. Et en fait, ce type disait être membre des renseignements de la marine, mais on l'a pas du tout cru, on l'a mis à l'ombre dans une cellule. Et là, pour prouver sa qualité de membre des renseignements, il dit que des attentats vont avoir lieu et personne ne l'écoute. Donc, il remet toutes les informations qu'il a données là-dessus sous une enveloppe scellée à la direction de la prison le 12 août 2001. Et on laisse ça de côté dans un casier parce que vraiment ce type apparemment emmerde son monde. Et puis il y a les attentats et il ressort de son trou. Et là, on ouvre l'enveloppe le 14 septembre et apparemment, mais on n'en a pas le détail, elle contiendrait une bonne description des attentats de New York. C'est assez troublant. Il y a aussi la fameuse mise en garde qui arrive 2 heures avant les attentats à une société israélienne spécialiste dans la transmission de données électroniques. Et d'après Thierry Messant, cette société israélienne aurait tenté de prévenir les occupants des tours et ça expliquerait pour lui le fait qu'il y ait finalement assez peu de morts. Il y a un peu moins de 3000 morts dans les tours, alors que rien que dans la partie située au-dessus du premier impact du premier avion dans la première tour, il devait y avoir beaucoup plus que 3000 personnes si ça avait été une journée de travail normale. Et apparemment aussi, la société israélienne en question ne répond plus à aucune interview. Il y aurait des consignes là-dessous. Et puis évidemment, Thierry Messant rappelle aussi des éléments qui avaient frappé tout être sensé quand il les avait entendus. Notamment, on prétend par exemple que l'avion dans le Pentagone, selon la version officielle, il se serait pulvérisé instantanément parce qu'on ne le voit sur aucune photo, on ne voit aucun débris, rien du tout.
Sauf les deux boîtes noires.
Oui, les deux boîtes noires et un phare, effectivement.
Et la photo qui est passée dans le soir avec un morceau de débris.
Oh, un nouveau dans l'équipe. Bonsoir, Samuel.
Bonsoir à tous.
La photo avec... Oui, effectivement, Le Monde a repris cette photo avec un débris aussi. Mais il faut savoir que l'attentat au Pentagone a eu lieu à l'endroit où se trouve l'héliport. Et rien ne prouve du tout que ce débris soit un débris d'avion. Ça peut parfaitement être un débris d'hélicoptère, un débris de voiture ou tout autre débris. Donc, il n'y a absolument pas de preuve. Pourtant, on a présenté ça comme une preuve.
C'est ça. Donc, en résumé... L'hypothèse de Messant sur le complot intérieur vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, il aligne un tas de faits pour le moins très, très, très troublants.
Un tas de faits pour le moins très troublants.
Qui sont tirés exclusivement de sources officielles et
oui,
auxquelles personne
n'offre
de réponse.
Mais il tire de ces faits des conclusions qui ne sont pas toujours tirables de ces faits. Mais on y reviendra. Et donc, oui, les quelques éléments qui avaient heurté forcément tout le monde, c'est donc on dit que cet avion s'est complètement désintégré dans le Pentagone. Par contre, un des avions qui s'est écrasé dans les tours, on a retrouvé le passeport de Mohamed Atta intact, un petit passeport qui est sorti intact de ce brasier. Et aussi les manuels de pilotage en arabe qu'on aurait trouvé dans une voiture à l'aéroport, etc. Ça paraissait un peu ridicule. Par contre, Thierry Messant, on va pas l'encenser parce que son bouquin est quand même aussi bourré de défauts. Il y a pas mal de raccourcis qui paraissent vraiment très légers, notamment il parle de listes de passagers contradictoires publié par les compagnies aériennes. Un jour, il y avait autant de passagers, l'autre jour, il y en avait 2-3 en moins ou quoi. Et pour lui, ça prouve qu'il n'y avait pas autant de pirates de l'air que ce qu'avance la version officielle. Mais on sait très bien quel est le chaos de l'information dans ses premières heures et ses premiers jours après les attentats. À mon avis, ça prouve rien du tout. Sinon, il y a un autre argument pour vous donner l'exemple de genre de raccourci qu'il ose faire et qui, moi, me heurte quand même. C'est Il parle des attentats en Afrique contre des ambassades américaines qui avaient été attribuées à Saddam Hussein et qui avaient valu d'ailleurs des représailles, notamment des bombardements sur l'Afghanistan et le Soudan par Clinton. Il dit on a présenté les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam comme anti-américains, alors qu'aucun des 11 morts de Dar es Salaam n'était états-unien et qu'à Nairobi, seuls 12 des 213 morts étaient américains. Donc, ce ne sont pas des attentats anti-américains. À part ça, c'est quand même les ambassades américaines qui ont explosé. Moi, ça me paraît assez ridicule. Et sinon... pour moi, la toute grosse faiblesse du raisonnement de Thierry Messant, c'est qu'il présente ces attentats donc, comme émanant d'une faction au sein de l'appareil militaire. Donc on a mis Bush au pied du mur en lui disant « voilà, on a les moyens de faire tout ce qu'on a fait là, t'as intérêt à lécher nos bottes et à augmenter les budgets militaires ». D'abord, je ne sais pas si on devait tellement pousser Bush dans le dos pour faire ça, mais bref. Et par contre, alors, dans beaucoup de démonstrations, c'est comme si c'est le gouvernement qui avait organisé... ces attentats. Par exemple, il dit c'est quand même suspect qu'il y avait des mouvements de troupes. Les Anglais, par exemple, étaient déjà avec toute leur marine du bon côté des mers du monde, etc. Mais les Anglais ne pouvaient pas se trouver exprès à cet endroit-là. Si, enfin, ça signifie qu'ils auraient su qu'il y aurait à avoir ces attentats. Or, c'est même pas la propre thèse de Thierry Messant. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. En tout cas, même si ce bouquin est bourré de défauts, il y a quelques rappels qui sont très intéressants, c'est-à-dire des choses dont tout le monde était au courant, qui étaient accessibles à tous, mais qui ont été mentionnées une seule fois et puis qu'on oublie complètement. Par exemple, à la mi-juillet 2001, il y avait eu un échec de négociations à Berlin, c'était des négociations multipartites avec les talibans notamment, sur l'avenir de l'Afghanistan, et notamment aussi sur la construction du fameux pipeline que les Américains essayaient de construire via la société Unocal en Afghanistan depuis longtemps, et les talibans n'avaient pas l'air de fléchir. Et là, les négociations échouent, et les États-Unis préviennent que si c'est comme ça, ils envahiront l'Afghanistan à la mi-octobre et ils renverseront les talibans. Et bon, apparemment, même sans le 11 septembre, c'est ce qu'ils avaient l'intention de faire. Évidemment, ça a justifié beaucoup de choses. Sinon, ils rappellent aussi que les fameuses preuves promises de l'implication de Ben Laden n'ont jamais été montrées. Blair a dit qu'il les avait vues et il a, donc, pour justifier l'entrée en guerre de l'Angleterre, il a fait un rapport à la Chambre des communes dans lequel il disait comme preuve de l'implication des talibans et d'Al-Qaïda, aucune autre organisation n'a à la fois les motivations et la capacité de conduire des attaques comme celle du 11 septembre, sinon le réseau Al-Qaïda dirigé par Oussama Ben Laden, CQFD. Voilà, c'est ça les preuves.
Ça a été très mystérieux ces preuves.
Personne ne les a jamais vues.
Le chef d'État à les avoir vues, même Bush apparemment...
Les Pakistanais affirment les avoir vues aussi, elles étaient très convaincantes, mais personne ne les a, en tout cas, elles n'ont jamais
été
publiées.
Ils auraient tout intérêt à les montrer, évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils les cachent, a priori.
Sinon, ils rappellent aussi qu'il y avait déjà une stratégie de faux attentats qui avait été envisagée dans les années 60 pour renverser Castro, donc pour donner le prétexte d'aller renverser Castro.
Qui était très proche, finalement, de faire des attentats dans des aéroports, dans... Et justement aussi qui a une idée très très proche de celle du 11 septembre.
Ouais. Avec entre autres des détournements d'avions militaires transformés en avions civils pour
tout à fait.
L'occasion.
Des trucs très 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 louches qui font un peu penser au 11 septembre. Et donc Kennedy s'y était opposé. Et pour Thierry Messant, c'est ce qui lui a valu son arrêt de mort. Mais bon, ça, on laisse ça à Thierry Messant. Sinon, il y a des rappels spectaculaires du CV de quelques personnes. Toute l'équipe Bush y passe. C'est hallucinant comme ces gens sont interconnectés avec le monde de l'armement, du pétrole, tout ça. Il rappelle le CV d'Hamid Karzai aussi, le nouveau premier ministre ou président par intérim afghan, ancien immigrant aux États-Unis, proche de la CIA, il a travaillé pour eux, et ancien conseiller d'Unocal, justement, la fameuse boîte qui va finalement construire le pipeline, puisque l'accord a été conclu avec Hamid Karzai, ancien employé de la boîte, dès la fin de la guerre en Afghanistan.
C'est-à-dire que ce pipeline, ça fait depuis 20 ans que les Américains essaient de le construire désespérément en Afghanistan pour contourner l'Iran. Et bon, c'est depuis la guerre contre l'Union soviétique qu'ils essayent de construire ce pipeline. Ils y arriveront.
Et alors, il y a un rappel aussi des budgets militaires américains. Ça, c'est une information accessible à tous, mais qu'on rappelle finalement très rarement. C'est des budgets de 396 milliards de dollars, c'est-à-dire que ce budget à lui tout seul est plus élevé que tous les budgets des 25 pays qui suivent les États-Unis au hit parade réunis. Et alors aussi, 15 milliards de dollars contre 396 milliards de dollars, le 15 milliards de dollars, c'est le budget militaire de l'ensemble des États voyous qui sont si menaçants et qui préparent la destruction du monde et tout. Il y a quelque chose qui cloche là.
Ah oui, c'est ça. Donc, si, même si l'hypothèse de Messant était paranoïaque, ce qui est sûr, c'est que ce que ça rapporte à Bush et à son équipe est tout à fait clair.
Et puis, on oublie de dire aussi, là, on parle de tout ce qui est militaire, mais il y a aussi le contexte de crise dans lequel s'embourbaient les États-Unis. On n'en parle plus. Ça a permis de
Ah
licencier des tas de gens. Donc,
oui. Et puis, ça fait repartir une partie de l'économie
un
aussi. Un
président
parce que, quand
qui
même...
n'est finalement pas élu, on en parlait tout à l'heure, qui n'a pas été vraiment accepté dans son élection, ben,
À tout
finalement,
à coup,
voilà.
Des taux de notoriété uniques dans l'histoire américaine. Tout
Et
à
puis,
fait.
Tous ces budgets ne vont faire qu'augmenter puisque les Américains vont développer l'arme spatiale à côté de la marine, l'infanterie.
Voilà. Enfin, au domaine où sans les Russes. Il y a 20 ans, ils seront tout seuls, donc voilà, rassurez-vous.
Enfin bref, au total, c'est un bouquin finalement assez inégal et assez peu professionnel et journalistique, et il dessert un peu finalement les questions et les rappels très pertinents qu'il lance, parce que Messin pose vraiment de bonnes questions, donc il faut en retenir surtout le Pentagone et certains détails factuels sur les attentats, mais il gâche un peu l'ensemble en essayant de répondre par des conjectures vraiment énormes et finalement trop peu étayées. Par exemple, le fait que l'attentat serait organisé par une faction militaire qui serait intérieure. Cette conclusion, on peut pas se permettre de la tirer, en tout cas maintenant. Et donc, il prend des faisceaux de présomption pour des preuves, et dans ces conditions, c'est un peu facile de le descendre en bloc si on décide de ne pas faire dans le détail. Et c'est précisément, j'ai encore quelques minutes pour la revue de presse, c'est précisément ce que fait la presse. Les pires célibés, ils apportent absolument pas le fond. Ils se contentent de descendre Messin en flamme en qualifiant cette thèse de délire profond, de dérapage, tout ça.
Sans aborder
du tout le fond.
Pose.
Du tout, du tout, du tout. Ils disent qu'il faudrait que 30 secondes. Si on s'attarde 30 secondes sur les photos du Pentagone, on comprend que c'est de la blague totale. Et voilà, Thierry Messin est un imbécile. Et ça va même jusqu'à l'insulte dans le dernier article qui a paru hier. C'était en déclinant ad nauseam sa vicieuse théorie selon laquelle aucun avion ne s'écrasa sur le Pentagone, le Thierry Messin nous aura d'abord amusé, puis intrigué, puis irrité, mais finalement il nous déprime gravement. Et enfin, vraiment, ça frise l'insulte. Et en fait, on remarque que ce qui énerve beaucoup à Libé, comme ailleurs aussi, c'est que les journalistes gardent très jalousement leur chasse et qu'ils estiment que Messin empiète sur leur plate-bande.
Oui, ça, je pense, c'est un autre enseignement du travail de Messin, c'est comment autant de journalistes en Europe et ailleurs en Occident ont réussi à ne pas se poser des questions sur l'apparition soudaine d'un passeport de terroriste au milieu des décombres, sur un Pentagone sans débris d'avion. Et je pense que ça doit irriter beaucoup de journalistes. Comment ça se fait qu'autant de gens ne se sont pas posé ces questions. Ça,
Oui, tout à fait. Ils sont un peu pris en défaut. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans Le Monde, ils ont fait vraiment une avalanche d'articles. Il y a tout un dossier. Allez voir sur le site, comme ça vous pourrez apprécier par vous-même, parce que je n'ai plus le temps d'en faire la critique. Et ce qu'on retrouve partout, c'est vraiment des attaques personnelles sur Messin. Et on retrace partout aussi son parcours personnel. Et alors là, c'est rigolo, parce que Le Soir fait la même chose. Il démonte vaguement certaines choses factuelles, mais c'est absolument pas convaincant. Ils prennent vraiment tout ce que dit la version officielle pour argent comptant. Et alors, donc, Thierry Messin est un type qui a été d'abord, il est passé par une crise mystique plus ou moins au couvent, et puis il est devenu complètement laïque, et puis il s'est déclaré homosexuel militant, et puis il est passé à la lutte contre l'extrême droite, etc., etc. Et notamment, avec son réseau Voltaire, il avait publié la fameuse lettre de soutien de l'abbé Pierre à Roger Garaudy, qui était un négationniste, et ça avait fait scandale. L'abbé Pierre, du coup, avait été très mal vu, etc. Et alors, on rappelle ça, évidemment,
mais
très brièvement...
Mais ça, on l'avait publié dans quel objectif ?
Pour justement critiquer l'abbé Pierre pour son soutien à un négationniste. Et on en parle très brièvement dans Le Monde, dans une phrase qui peut paraître un peu cryptique et que Le Soir a finalement très mal compris. Parce que qu'est-ce qu'on lit dans Le Soir ? On retrace son parcours et on continue par dire « Il déteste les théocraties, etc. » Ce qui ne l'empêche pas de soutenir avec l'abbé Pierre un Garaudy égaré dans le négationnisme. Et alors là, on se dit « Merde, ce Thierry Messin est en fait un sale type d'extrême droite. » Et en fait, c'est simplement le journaliste du Soir qui a mal lu ce qui paraissait dans Le Monde. Et je l'ai interviewé, j'ai encore juste le temps de passer un petit extrait de son interview. Alors j'aurais voulu vous poser une question concernant, donc vous dites à un moment donné... Il déteste les théocraties, ce qui ne l'empêche pas de soutenir avec l'abbé Pierre un Garaudy égaré dans le négationnisme.
Ce n'est pas exact. C'est lié à une information mal répercutée par Le Monde et mal répercutée par un site internet. Donc j'avais deux sources différentes, je l'ai mis. En fait, il s'est opposé avec beaucoup de violence à Garaudy. C'est vrai, c'est exact. Et il y a une rectification qui est sur le site. Si vous allez maintenant voir sur la vie du net et si vous lisez l'article, vous allez voir qu'il est différent.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est, si vous voulez me citer, vous citez cette nouvelle version, s'il vous plaît.
Oui.
Qui est en ligne maintenant, donc c'est pas difficile. Donc, si vous allez sur lavidunet.com, qui est un de mes sites satellites, Vous avez en page d'accueil, vous allez voir dossier Pentagone, et vous cliquez dessus et vous avez 7 ou 8 articles, une petite dizaine même peut-être. Et donc ça c'est le point actuel.
Ah, d'accord. Parce que dans Le Monde, j'avais lu, ainsi M. Messant et ses amis parviennent-ils en 96 à diffuser la lettre de soutien de l'abbé Pierre à Roger Garaudy. Mais ça ne prêtait pas tellement à équivoque.
Mais ce qui prêtait à équivoque, effectivement, c'est ce que j'en avais lu sur un autre site d'information. Qui fait que, effectivement, j'ai écrit ça, ce qui n'est pas correct.
Mais finalement, on reproche à Thierry Messant ces méthodes pas très rigoureuses. Si on appliquait les mêmes méthodes au soir, on pourrait en dire autant.
Je suis tout à fait d'accord, mais qui ne commet pas d'erreur. Quand vous avez deux sources concordantes, dont Le Monde est un site internet sérieux, mais ça je ne vais pas vous dire lequel parce qu'à mon avis il a rectifié aussi, parce qu'ils sont très vigilants au réseau Voltaire, ils ont bien raison de l'être, vous pensez que l'information est fondée. Bon, tout le monde peut se tromper. Je pense qu'il faut quand même être clair à cet égard-là, personne n'est infaillible et le droit de réponse et la rectification existent.
Et ça n'a pas été rectifié dans le journal papier ?
Ça n'a pas encore été rectifié dans le journal papier, tout simplement parce que pour l'instant, Thierry Messant ne me l'a pas demandé. Je lui ai signalé que j'étais disposé à le faire. Il existe.
Et ça n'a pas été rectifié dans le journal papier ?
Ça n'a pas encore été rectifié dans le journal papier, tout simplement parce que pour l'instant, Thierry Messant ne me l'a pas demandé. Je lui ai signalé que j'étais disposé à le faire. Il m'a envoyé toute une série de documents prouvant ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que je rectifie s'il le demande. Il ne m'a pas encore répondu, mais s'il demande que je rectifie, évidemment que je vais rectifier.
Voilà, c'est un peu l'histoire de la paille et la poutre. On reproche à Thierry Messant qu'il y a peut-être des petits trucs qui clochent dans ce qu'il avance. Et puis là, on est carrément incapable de faire deux clics de souris pour vérifier ces infos sur Thierry Messant. Il me semble que les journalistes, là, en l'occurrence, n'ont rien à dire.
Ouais, là, c'est pas fameux.
Ok, désolé, on a de nouveau empiété sur l'émission qui suit. Et voilà, nous n'avons plus le temps d'aller en détail, mais... honorer le doute que Thierry Messant essaye d'instiller dans les esprits.
Mais tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver son livre, Olivier, pour les gens qui voudraient
aller voir le site.
Genre en librairie ?
Genre en librairie à la Fnac, ça se trouve.
Oui, mais évidemment.
À la librairie internationale, par exemple.
Voilà, 171 boulevard Le Monnier. À la semaine prochaine. On dit ça pendant le générique, en fait. Voilà. Et voilà, merci d'être resté à l'écoute jusque-là. N'oubliez pas les rediffusions, vendredi à 14h sur Radio Campus 107.2, mardi matin sur Radio Panique 105.4, et puis le site internet, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, www.collectifaupluriel.net/alterecho. Et puis nous avons, première historique, rediffusé de la musique dans cette émission. Il y avait tout d'abord, Nicolas...
Il y avait The Sound of the Police de KRS-One.
Voilà, et puis le deuxième morceau, c'était La Malice, sur le dernier CD de Daniel Hélin, que nous ne manquerons pas de vous faire explorer encore plus avant dans cette émission. Merci d'être resté à l'écoute.
Voilà, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.